EJE Square, littérature, conférences, revue de presse. EJE Square, ensemble pour la petite enfance. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EJE Square pour cette journée spéciale Protection de l'enfance, émission radio diffusée en direct et en public depuis l'auberge de jeunesse Stéphane Hessel de Lille. Aujourd'hui, quatre thématiques, quatre personnalités émérites. Nous aborderons les violences conjugales avec Sandrine Ballonnet, référente départementale dans ce domaine, le développement de l'enfant et ses besoins avec professeur de Lyon, pédopsychiatre, et le burn-out parental avec Isabelle Rosgam, docteur en psychologie à l'Université de Louvain en Belgique. Mais tout d'abord, abordons un de nos sujets majeurs, le syndrome du bébé secoué. J'ai eu l'honneur d'interviewer professeur Vinchon au sein même de son service de neurochirurgie pédiatrique au CHR de Lille. Écoutons ses réponses. Professeur, qu'est-ce que le syndrome du bébé secoué ?
Alors, le bébé secoué, ce sont les lésions qui résultent d'une maltraitance grave. Secouer son enfant, c'est un acte de violence. Et ça crée des lésions cérébrales qui peuvent être gravissimes et entraîner le décès ou des séquelles. Donc ce sont des lésions hémorragiques au niveau du cerveau, au niveau des méninges, les enveloppes du cerveau. Et ça peut entraîner une épilepsie, ça peut entraîner le coma, et puis des lésions du cerveau avec des séquelles neurologiques et la mort. Alors fort heureusement, il y a beaucoup de syndrome du bébé secoué qui ne sont pas si graves, mais qui doivent absolument être diagnostiqués parce que c'est une maltraitance qui, si elle n'est pas diagnostiquée, va récidiver et qui peut à ce moment-là entraîner le décès.
Le secouement du bébé est considéré comme un acte de maltraitance volontaire ?
Alors, c'est un acte sous le coup de la loi, ça tombe sous l'appellation de violence volontaire, mais ça survient sous le coup de la colère. C'est un adulte qui perd complètement son contrôle. C'est à la suite des cris d'un enfant qui crie de façon continue et inconsolable. Bon, l'enfant, quand il crie, il s'exprime en fait. Hein. Et l'adulte qui se sent remis en cause, qui n'en peut plus, qui peut avoir différents soucis dans sa vie et qui s'arrive au mauvais moment, il perd son contrôle et il peut se mettre à secouer son enfant en pensant que ça va le calmer. Alors, malheureusement, ça ne le calme que trop bien, parce que quand il arrête de pleurer, ça peut vouloir dire qu'il a déjà des lésions cérébrales.
Et qui peut être auteur du secouement du bébé ?
Alors, l'auteur du secouement, dans les statistiques habituelles, c'est dans 70% des cas un homme. C'est très souvent, le plus souvent, le papa de l'enfant, ou bien ça peut être le beau-père, ou quelqu'un, un homme qui est à la maison, mais ça peut être aussi bien la mère, ça peut arriver à tout le monde, hein, même des mères qui sont aimantes. Et puis ça peut arriver également chez la nourrice, toute personne qui est au contact d'un enfant qui pleure de façon inconsolable peut perdre son contrôle. Alors, chez la nourrice, ça correspond à peu près à 17% dans la région Nord-Pas-de-Calais. En région parisienne, ils estiment que c'est 40%, donc on n'a pas la même démographie.
Et quels sont les signes révélateurs du syndrome du bébé secoué ?
Alors, les signes révélateurs, c'est très variable. Il y a des formes très graves où c'est d'emblée l'enfant qui est comateux. Ça peut même être une cause de mort subite. C'est un diagnostic différentiel de la mort spontanée du nourrisson. Et puis, il y a des enfants qui survivent, c'est un malaise grave avec un enfant qui perd connaissance, qui respire mal, qui fait des convulsions et qui est pris en charge par le SAMU, qui arrive aux urgences, en réanimation. On fait le bilan radiologique, le bilan des différentes lésions traumatiques qui permettent de faire le diagnostic. Donc ça, ce sont les formes graves. Alors, à côté de ces formes graves, il y a beaucoup de formes beaucoup moins graves et à côté desquelles il ne faut pas passer parce que si on les néglige et qu'on ne fait pas le diagnostic, il peut y avoir une récidive de maltraitance et on se rend compte que dans les formes graves, assez souvent, il y a déjà eu des maltraitances. Ce n'est pas la première fois que l'enfant est secoué quand il arrive dans un état grave. Donc ces formes moins graves, il y a une hémorragie méningée, l'enfant est douloureux, il vomit, il fait parfois des convulsions. Donc là, on est à la limite des formes graves, parce que quand il commence à convulser, c'est qu'il commence à se passer quelque chose de très sérieux au niveau du cerveau. Mais ça peut être bien toléré, l'enfant peut se remettre, il peut malgré tout installer une poche de liquide autour du cerveau. On appelle ça un hématome sous-dural qui se constitue en quelques jours après l'hémorragie. Donc ça atteint plutôt les garçons et ça arrive plutôt à partir de 3-4 mois. Et c'est un problème de circulation du liquide méningé qui est bloqué par ce sang et qui va entraîner une hypertension intracrânienne avec une augmentation du périmètre crânien, un enfant qui devient de plus en plus douloureux, qui vomit, qui ne mange pas bien, et le périmètre crânien qui augmente. Et donc ça peut nécessiter une opération ou un drainage dans un deuxième temps. Donc voilà les formes moins graves. Et puis il y a des formes très chroniques où un beau jour, l'enfant arrive en consultation parce que son périmètre crânien augmente, on se rend compte qu'il y a un saignement ancien à l'imagerie, et puis il n'y a rien d'autre. Et donc dans ces cas-là, on peut pas affirmer qu'il s'est passé quelque chose. Donc c'est un peu un non-lieu, mais c'est des formes. L'important, c'est que l'enfant aille bien.
Professeur, y a-t-il des signes visibles à l'œil nu?
Ce qui est visible à l'œil nu, ça n'a rien de spécifique. On voit un enfant qui ne va pas bien, qui a l'air d'avoir mal, qui vomit, qui peut être très somnolent, qui peut même convulser. Ça, c'est des symptômes qui se passe quelque chose dans sa tête, mais ça n'est pas spécifique du bébé secoué. Simplement, on sait qu'il ne va pas bien et qu'il faut qu'il aille aux urgences. Dans ces cas-là, il faut qu'il soit hospitalisé le plus vite possible. Et c'est aux urgences qu'on va faire un bilan avec notamment un scanner, un fond d'œil, et là, on voit s'il y a un saignement dans les méninges, qu'on a des hémorragies au fond d'œil, là on a des éléments très forts en faveur d'un syndrome du bébé secoué. Et s'il n'y a aucune notion de traumatisme, bon, bah, c'est qu'il s'est passé quelque chose et qu'on nous le cache, et clairement on est devant un syndrome du bébé secoué.
Les conséquences sont irréversibles, elles peuvent l'être, et donc il s'agit d'agir vite.
Alors il faut agir vite, surtout pour soigner l'enfant, c'est ça le principal, parce que quand l'enfant est dans un état grave, les minutes sont comptées. Plus le temps passe, plus le cerveau va manquer d'oxygène et il risque d'autant plus d'y avoir des séquelles neurologiques ou un décès. Donc l'urgence, c'est de soigner l'enfant. Et puis il y a une urgence à faire le diagnostic, parce que, comme je vous l'ai dit, si on ne fait pas le diagnostic et que l'enfant est rendu à sa famille parce qu'il va bien, il peut y avoir une récidive et de maltraitance qui peut être beaucoup plus grave et voire même mortelle. Et donc c'est urgent de faire le diagnostic, il ne faut pas passer à côté, parce qu'il y a des mesures de protection de l'enfant qui peuvent se mettre en place, qui autrement ne peuvent pas être appliquées, puisque s'il n'y a pas de suspicion de maltraitance. Et donc la loi nous oblige, quand le diagnostic est fait, à faire un signalement judiciaire. Nul n'y échappe, ce n'est pas parce qu'on est soignant qu'on peut ne pas faire ce signalement. La priorité, c'est de protéger l'enfant. On n'en reste pas moins soignant, c'est-à-dire qu'une fois que le signalement est fait, on continue à le soigner et à s'en occuper pour qu'il aille bien.
Vous évoquez, professeur, justement le signalement. Quelle est votre procédure lorsque vous diagnostiquez le syndrome du bébé secoué?
Alors, quand on a un syndrome du bébé secoué qui est diagnostiqué, la loi nous oblige à faire un signalement judiciaire, c'est-à-dire qu'on va informer le procureur de la République qu'on a en hospitalisation un enfant pour lequel on a diagnostiqué des lésions qui font penser qu'il a été maltraité. Donc c'est un signalement judiciaire, ça n'est pas une information préoccupante. L'information préoccupante, c'est quand il y a une menace au domicile, des situations de danger. Là, c'est pour des lésions qui sont susceptibles d'entraîner des séquelles, voire même la mort. Et donc c'est un signalement qui a lieu le plus vite possible, dans les 24 heures en général, pour deux raisons: pour protéger l'enfant, bien sûr, pour aussi qu'il ait droit à une réparation ultérieurement, parce que s'il garde des séquelles, le système de santé permet une réparation financière et des soins qui sont pris en charge. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que si un enfant maltraité, il peut avoir des frères et sœurs. Ça peut être un enfant qui est chez une assistante maternelle où il y a d'autres enfants qui peuvent être exposés à des violences, et donc il s'agit de protéger d'autres enfants potentiellement maltraités.
Quelles sont les séquelles du secouement sur le développement de l'enfant?
Il peut y avoir différents types de séquelles. Bon, bien sûr, il y en a qui ne survivent pas, c'est à peu près 9 à 10% des cas. Et puis ceux qui survivent, il y a à peu près un tiers qui ont des séquelles neurologiques. C'est des séquelles là aussi qui ne sont pas spécifiques. C'est un enfant qui a un retard des apprentissages, il peut avoir des séquelles visuelles, donc une mauvaise vision, voire même une cécité. Il peut avoir des séquelles motrices avec une paralysie plus ou moins sévère qui va interférer avec sa croissance. Donc c'est quelque chose qui nécessite une prise en charge rapprochée dans un centre de rééducation ou dans un centre d'aide médico-sociale de proximité pour qu'il y ait des différents spécialistes qui puissent s'en occuper pour faire de la kiné, de l'ergothérapie, de la psychomotricité, tout ce dont il aura besoin, et c'est prolongé. C'est quasiment jusqu'à la fin de sa croissance. Et puis, il peut y avoir d'autres séquelles, notamment de l'épilepsie. Quand il y a une atteinte du cortex cérébral, ça peut laisser des cicatrices qui vont être à l'origine d'une épilepsie qui peut apparaître secondairement et c'est une maladie qui peut évoluer pour son propre compte. Donc c'est une maladie grave qui découle du syndrome du bébé secoué. Et puis en dehors de ça, on peut avoir des enfants qui ont des séquelles de la violence au milieu de laquelle ils se sont trouvés. Souvent, le syndrome du bébé secoué, ça s'intègre dans un contexte de violence diffuse. C'est pas que le secouement, c'est de la violence parentale, c'est de la violence verbale, des carences éducatives graves. Et donc, un enfant qui est élevé dans la violence, très souvent, il garde des séquelles sur le plan affectif, sur le plan comportemental, et ça peut lui-même devenir un adulte violent qui peut être à l'origine de maltraitance. Et c'est quelque chose qu'on voit parfois chez les maltraiteurs d'enfants, c'est que ce sont d'anciens enfants maltraités.
Le bébé pleure dans les bras, il ne se calme pas, l'adulte s'agace, que faire ?
Alors l'adulte qui est exaspéré par les pleurs de l'enfant, il faut qu'il sache que c'est normal qu'un enfant pleure. Ça fait partie de son évolution, on sait que la durée des pleurs augmente pendant les premiers mois de vie, qu'elle est maximale autour de 2 mois, 3 mois de vie. Ça peut durer plusieurs heures chaque jour, y compris la nuit, bien sûr. Et il ne faut pas penser que l'enfant lui en veut, qu'il est déconsidéré en tant que parent. Il faut qu'il sache que c'est normal que l'enfant pleure et que la dernière chose à faire dans un cas comme ça, c'est de secouer l'enfant. Et donc, l'exaspération, elle monte. Elle est vécue par beaucoup de parents. Fort heureusement, c'est très peu de parents qui vont passer à l'acte et secouer leur enfant, mais c'est vraiment la dernière chose à faire. Et donc, il faut anticiper ce moment où l'enfant va pleurer de façon intolérable. Il faut se dire que c'est ce bébé qui vient de naître, qui pleure uniquement quand il a faim et de façon très acceptable, et bien dans quelques mois, il pleurera pour se faire entendre. C'est son mode d'expression. Et il ne faut surtout pas le secouer à ce moment-là parce que ça peut entraîner la mort dans un peu moins de 10% des cas, des séquelles dans à peu près un tiers des cas, et que c'est quelque chose qui peut être évité. C'est un enfant qui est en parfaite santé jusqu'au moment où le secouement survient. C'est vraiment trop bête quand on pense à toutes les maladies qu'on a du mal à traiter et qu'on ne sait pas encore traiter, alors que celle-là, c'est la prévention qui nous permettrait d'éviter cette mortalité et cette morbidité.
Il y a toute une prévention autour du syndrome du bébé secoué aujourd'hui dans nos maternités.
Donc ça, c'est un grand projet qu'on met en place à la maternité Jeanne de Flandre au CHU de Lille, mais qu'on espère étendre rapidement aux autres maternités de la métropole lilloise et au-delà, à la région des Hauts-de-France, voire même à tout le territoire. En fait, on reprend une expérience qui a été mise en place au Canada depuis plusieurs années maintenant, d'abord sur Montréal, puis sur l'État du Québec, puis au niveau fédéral, avec ce qu'on appelle le crying plan. Donc le crying plan, c'est une intervention qui est faite en maternité. Donc au CHR de Lille, c'est le docteur Tamer Ragza qui est pédiatre en maternité, qui est la cheville ouvrière de ce crying plan et qui est en train de le mettre en place avec une infirmière ou une sage-femme qui rend visite à chacun des couples d'enfants qui viennent de naître pour leur expliquer que le bébé, il va pleurer d'ici quelques semaines, quelques mois, il va pleurer plusieurs heures par jour, qu'il risque d'avoir des pleurs intolérables et que les parents risquent de perdre leur self-control et qu'il faut surtout pas secouer leur enfant. Et donc en anticipant de qu'est-ce qu'ils feront à ce moment-là. C'est pas qu'est-ce qu'ils feront si ça arrive, mais qu'est-ce qu'ils feront à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour ne pas passer à l'acte, aller faire un tour, appeler quelqu'un, noter le numéro de la personne qu'ils vont appeler sur les fiches qu'on leur remet. Donc on leur remet des fiches qui rappellent et qui restent après l'intervention de l'équipe en maternité. Donc, ils vont leur rappeler ce qu'on leur a expliqué, que l'enfant va pleurer, que ça peut durer plusieurs heures par jour, et qu'il ne faut surtout pas le secouer. Et donc, ça se met en place, et ça, c'est ce qui est pour le présent, et pour l'avenir, on espère faire des réunions d'information et de formation auprès des assistantes maternelles. Bon, l'enfant peut être maltraité chez l'assistante maternelle, ce n'est pas forcément l'assistante maternelle, ou bien il peut avoir été secoué dans son domicile et puis c'est chez l'assistante maternelle que les symptômes apparaissent. Donc il faut savoir les reconnaître, il faut savoir quoi faire pour éviter les conséquences catastrophiques qui sont liées à un retard de prise en charge. Donc là aussi, c'est un autre volet de prévention qu'on espère mettre en place très prochainement. Et ça rentre dans le cadre d'un plan national qui est mis en place par le secrétaire d'État à la protection de l'enfance, hein, M. Adrien Taquet, qui doit visiter le CHU de Lille le mois prochain. On est très content d'avoir ce parrainage pour nos actions et on espère bien que nos actions vont servir un petit peu d'exemple. Hein. C'est une expérience pilote qu'on met en place au CHU de Lille en espérant qu'elle va se répandre.
Vous vous mobilisez également dans cette nécessaire prévention à travers votre association Les mots pour le dire. Souhaitez-vous nous en dire davantage?
Très volontiers. Donc l'association dont je suis un des vice-présidents, elle a été fondée par la présidente Maître Danielle Gobert, qui est avocate. Sa pratique professionnelle n'a pas du tout de lien avec le bébé secoué, mais elle a été vraiment sensibilisée à cette problématique, car elle est également blouse rose, c'est-à-dire qu'elle fait partie de ces personnes qui viennent rendre visite aux enfants hospitalisés. Et puis elle a découvert le syndrome du bébé secoué en étant blouse rose dans le service de neurochirurgie pédiatrique. Et un beau jour, on a décidé ensemble d'organiser une conférence pour les différents professionnels de la médecine, du médico-social et du système juridique pour faire une information et une formation des différentes professions sur la thématique du syndrome du bébé secoué. Donc ça, c'était en 2015. Et depuis, tous les ans, on organise une conférence qui a trait à différents types de maltraitance de l'enfant. Cette association, sa raison sociale, c'est une association à destinée des professionnels de la santé, du médico-social et du monde juridique pour faire des informations et des formations et dans le but de prévenir la maltraitance de l'enfant sous toutes ses formes. Le syndrome du bébé secoué, ça en fait partie. C'est un petit peu le cheval de bataille de notre association parce qu'on travaille beaucoup sur cette maltraitance et sur sa prévention. Et donc on organise tous les ans une réunion. La dernière a eu lieu fin juin, donc juste à la fin du confinement. On était très heureux de pouvoir accueillir pas loin de 600 personnes qui se sont déplacées pour venir au Palais des Congrès à Lille pour différentes conférences avec différents ateliers dont on a fait une restitution qui est un document qui reste sur la thématique de la prévention de la maltraitance sous toutes ses formes. Et donc la prochaine réunion qu'on organise, ce sera le 18 mars, vous pouvez noter dans vos agendas. C'est adressé là aussi à tous les professionnels de la santé, du médico-social et de la justice. Et c'est sur la journée du 18 mars qu'on va organiser sur la thématique uniquement du bébé secoué cette fois-ci, en approfondissant et en s'orientant surtout vers les actions de prévention.
Et en conclusion, professeur ?
Pour conclure, je crois qu'il faut que le message soit diffusé le plus possible. Donc je remercie beaucoup Radio Moulin de nous donner la parole pour pouvoir adresser ce message à tous les parents de jeunes enfants. Un enfant qui pleure, c'est normal. Le secouer, c'est la dernière des choses à faire parce que ça peut entraîner la mort ou des séquelles. Un enfant qui pleure, ça va passer. Il faut trouver les moyens de faire face et surtout ne secouez pas votre enfant.
Merci professeur Vinchon pour votre collaboration. Toutes ces informations seront accessibles sur radiomoulin.org avec des liens qui vous dirigeront vers le blog du professeur Vinchon et vers le site de l'association Les mots pour le dire. Une courte vidéo de sensibilisation y sera également publiée. Elle est à voir et à revoir car elle reprend à elle seule les éléments essentiels à retenir. Et avant d'accueillir notre nouvelle invitée, une pause musicale avec une chanson de Johan Frégé, « Sauras-tu m'aimer ?»
entre les signes, un peu plus loin que voient les yeux. Si tu croyais à l'impossible, qu'il y a une heure et une rive pour laisser place au merveilleux. Tout pourrait alors commencer. Parce que derrière les apparences, derrière les grilles de l'existence, il y a tant de beauté. Parce que derrière les différences, malgré le passé, les distances, tout reste à inventer. Parce que